Vous écoutez l'autre monde, nous sommes au festival Mauvais Tour, au cinéma studio, et nous sommes avec Mathias Couquet pour le court-métrage Lui, un court-métrage présenté comme thriller fantastique qui dure 10 minutes 25. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Thriller fantastique, mais on est à la frontière, façon de parler, avec éventuellement un petit sujet psy pour une interprétation un petit peu plus terre à terre potentiellement sur lui. Le pitch, c'est quelqu'un qui voit un homme, sauf que quand il veut s'en approcher, et ben cet homme disparaît et il en parle à un pote qui le voit aussi, donc ça rassure mais en même temps ça inquiète. Cette approche de voir, de se souvenir, de cette inquiétude justement de il est là mais je m'en souviens pas, mais en même temps j'ai des photos de lui, sans trop spoiler parce que ça dure 10 minutes donc il se passe plein de choses, mais toute cette idée de lui, vous l'avez eu comment au départ?
Alors je pense, si je reviens un petit peu sur la jeunesse de l'idée de comment le film a été écrit, c'est des sources qui sont plutôt littéraires. Alors c'est vrai qu'on me parle souvent, et je pense à raison, hein, c'est un film par ailleurs que j'aime beaucoup, mais on me parle souvent de It Follows, auquel je pense qu'il est légitime de penser, mais c'était pas du tout mon intention de départ. Enfin, c'est vrai qu'on pourrait presque dire qu'il y a un sous-genre du film de personnages suivis, quoi, où il y a des comme ça une apparition qui revient. C'est un peu un motif fantastique comme qui est très proche du double. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment moi It Follows que j'avais en tête. Moi, en fait, c'était il y a vraiment deux choses. Alors au départ, il y a surtout Maupassant. En fait, moi, mon précédent en cours, qui remonte maintenant il y a quelques années, était très inspiré de Lovecraft, et en fait je suis un peu revenu de notre côté de l'Atlantique, je suis un peu revenu à Maupassant, parce que j'avais relu dans un cadre, c'était dans le cadre d'un cours de littérature, j'avais relu une de ses nouvelles, qu'on va dire macabre ou presque fantastique, qui s'appelle Lui. Alors en fait c'est Lui mais avec un point d'interrogation, donc c'est Lui, on pourrait dire, pour plaisanter. Et Lui, alors n'est pas, encore une fois, mon court-métrage, entre guillemets, donc Lui n'est pas une adaptation directe, mais c'était vraiment, on va dire, les mêmes motifs, cette idée, hein, que ce qu'on a dans la nouvelle de Maupassant, en fait c'est quelqu'un qui... Alors pour le coup, l'explication est plutôt psychiatrique. C'est quelqu'un qui effectivement est victime, comme apparemment l'aurait été Maupassant, d'un phénomène de dépersonnalisation, en fait, de dédoublement, où il se voit lui-même, en fait. Le personnage a l'impression qu'il y a un intrus dans sa vie, mais en fait, c'est lui-même. Et moi, je suis parti de ça, mais bon, je l'ai un petit peu, je l'ai un peu changé. Et ça, c'est drôle parce que il y a une deuxième source. Et que j'ai longtemps un peu occulté, mais parce qu'en fait j'y pensais plus. Et à un moment je l'ai relu et je me suis dit mais oui, mais en fait c'était vraiment ça le point de départ, qui est une nouvelle de Richard Matheson, qui est une nouvelle qui s'appelle Escamotage. Et je dirais que tout est un petit peu dans le titre d'une certaine manière, c'est l'histoire d'une disparition. On pourrait dire c'est un fantastique un peu identitaire. Quelles sont un peu les limites de la personne. C'est un type de fantastique qui questionne un petit peu ce qu'est l'individu et ça. Oui, quelles sont les limites de l'individu? Comment l'individu peut se dissoudre, en fait, d'une certaine manière? Voilà, j'en ai dit beaucoup déjà, mais en tout cas, c'était vraiment ces sources-là. Et après, bon, ça s'est mélangé à d'autres problématiques, et notamment des questions, je dirais, de durée, d'efficacité, que moi, je voulais faire quelque chose, contrairement à mon précédent, de très court, de très resserré, avec une dimension, justement, de nouvelle. Vraiment, l'idée que ce soit presque un huis clos, alors le film l'est pas totalement, mais de vraiment travailler, voilà, sur quelque chose qui soit très resserré, presque en temps réel, avec le moins de personnages possible, et comme ça, quelque chose où on va maximiser la tension, mais sur un temps très très court. Voilà.
Le choix des lieux de tournage, justement, ça s'est fait de quelle façon? Parce que c'est vrai que là, en reparlant, alors je m'en suis pas rendu compte en le regardant, mais c'est vrai que ça aurait pu être en une seule prise.
Oui, alors en fait, il y a plusieurs choses. Il y a dès l'écriture, en fait, hein, l'envie que ce soit, alors encore une fois, c'est pas complètement un huis clos, mais c'est un quasi huis clos. En tout cas, vraiment les deux tiers, voire les trois quarts du film se passent dans le même bar. Il y avait un peu cette idée, justement, d'aller-retour entre l'intérieur et l'extérieur. Puisque bon, je voulais pas trop en dire justement, hein, je pense que c'est un film où c'est bien de garder un petit peu de mystère sur la fin, mais il y a quand même une sorte de menace qui évolue et où on passe justement de l'extérieur à l'intérieur, donc ça c'était important déjà sur le décor. Mais en fait c'est une excellente question parce que, pour vous dire, en fait ce court-métrage je l'ai écrit sur la base d'un lieu que je connaissais très très bien, qui n'est pas celui qui est dans le film parce qu'ensuite pour plein de raisons on n'a pas pu tourner dans ce café, mais c'est aussi un des points de départ. C'était, je dirais qu'il y avait presque cette idée où à un moment, je me suis dit, ce serait vraiment super si t'arrivais à... justement, si toutes tes envies là de court-métrage fantastique, t'arrivais à les mettre dans ce lieu très précisément. Et c'est vraiment comme ça qu'il a été écrit. Hein. Il y a d'ailleurs une version de storyboard, parce que assez longtemps, on voulait tourner dans ce lieu. Et donc, il y a une version où, si je le montrais à quelqu'un qui connaît l'établissement et à qui je pourrais montrer le storyboard, verrait tout de suite que ça a été vraiment découpé exactement pour cet endroit. Et ensuite, comme c'est presque toujours le cas, finalement... voilà, nécessité faisant loi, on a trouvé un autre endroit. Mais en tout cas, hein, le lieu aussi était vraiment faisait vraiment partie du projet. Et aussi parce que je pense que moi personnellement, j'adore les cafés. Je suis quelqu'un qui ça c'est mon côté parisien. J'aime beaucoup passer du temps dans des cafés, donc il y avait cette dimension très personnelle. Mais j'aime bien l'idée que le café, et c'est ce que je voulais aussi faire dans le film. Je sais pas si ça fonctionne, mais le café est un peu un lieu intermédiaire, c'est-à-dire que c'est un lieu qui est public, mais qui peut devenir très très privé. On peut avoir des conversations très personnelles dans un café. Et c'est un lieu qui est vraiment à cheval comme ça entre le privé, entre les relations privées. C'est typiquement, hein, voilà, c'est un film qui commence sur un rendez-vous entre amis, donc on se voit pas chez soi, on se voit dans un café, donc on est à cheval entre. Ça donne sur la rue, mais on est quand même derrière les murs. Enfin, il y a une sorte d'entre-deux comme ça qui m'intéressait. Voilà. Et donc oui, le café était important. On pourrait dire aussi que c'est un film de café, en quelque sorte.
Un mot sur l'ambiance sonore du film aussi?
Oui, alors l'ambiance sonore, ça a été... ça, comme souvent, déjà que les enjeux sont différents. Dans le fantastique, il y a des enjeux spécifiques. Ça a été un gros travail, notamment avec un super ingénieur son en post-production qui, alors les ingénieurs son sur le tournage étaient super, mais on a beaucoup travaillé ensuite en post-production avec Alix Brun, qui peut-être se reconnaîtra, je lui enverrai le lien. Bah, c'est beaucoup en fait un travail. Alors il y a évidemment des questions très techniques déjà, la précision du son, est-ce qu'on entend bien telle et telle chose, est-ce qu'il faut rattraper, bon, ça c'est un peu la cuisine interne. Après, je pense qu'un des enjeux est quand même de, à la fois créer une atmosphère, mais de garder l'équilibre, peut-être sans aller trop loin dans des effets par exemple sound design qui viendraient tout de suite signifier tel effet. C'est comment trouver l'équilibre en fait. C'est-à-dire on veut créer une ambiance. C'est d'ailleurs la même question en fait pour tous les éléments du film, parce que c'est un film qui cherche à créer une ambiance, mais qui ne veut pas non plus que le fantastique ou en tout cas les éléments les plus étranges soient trop ostentatoire, chose que je peux adorer par ailleurs, mais là ça collait pas avec ce projet. Donc c'était vraiment une recherche d'équilibre, comment sur des choses très simples on peut à un moment créer un sentiment d'étrangeté, comment on peut insister sur parfois même un silence, ou au contraire remettre un petit peu de présence derrière. C'est voilà, c'était un équilibre pour trouver le bon niveau d'étrangeté, je dirais, voilà, mais pas non plus en allant dans des effets peut-être trop appuyés, en sachant que la musique vient justement, elle, qui est une musique très qui est très proche du sound design, vient quand même plutôt là de manière très codée, hein, mais justement c'est elle un peu qui prend en charge le fait de venir appuyer à certains moments. Donc comme souvent, hein, le son comme beaucoup d'autres aspects, mais c'est je dirais que là en tout cas c'est vraiment une recherche d'équilibre, c'est vraiment d'essayer de trouver les bons les bons niveaux, on pourrait dire en quelque sorte. Oui.
Sur les angles de caméra, je pense qu'il y a eu énormément de travail aussi. Le storyboard a dû être un travail millimétré, je suppose.
Oui, alors c'est vrai que c'est un film que ça c'est presque pour le coup c'est le luxe de faire un court métrage court, et aussi j'ai un très bon ami qui est storyboarder, donc qui m'a vraiment filé un super coup de main. On l'a storyboardé entièrement, ce qui est quand même quelque chose qu'on fait pas forcément très, enfin si couramment. On peut beaucoup storyboarder pour plein de raisons, mais là c'était vraiment, je dirais, de la première image jusqu'à la dernière. Mais en fait c'était génial parce que comme c'est un, alors premièrement il y a des questions de tournage, hein. C'est un film qui se tourne quand même en pas énormément de temps, avec des exigences de rendement, donc bon, moi je comme beaucoup d'autres réels, je fonctionne comme ça, c'est il faut vraiment que ce soit très préparé, ne serait-ce que pour avoir ce confort-là, et ensuite on peut changer des choses et s'adapter, mais il faut vraiment qu'on ait une feuille de route très claire. Mais c'est aussi parce que, comme c'est une situation très resserrée, avec en plus beaucoup de dialogues, il faut pas qu'on ait trop le sentiment de stagner, il faut vraiment suivre en fait l'évolution de cette situation. Alors c'est déjà très très découpé, je dirais, dans le scénario. En fait, il y avait beaucoup d'étapes, même parfois simplement dans l'échange, il y a une phrase qui va renverser un petit peu ce qu'on pensait de la scène. Mais il fallait vraiment un découpage et des cadrages qui puissent vraiment épouser comme ça l'évolution de la situation. Et ça demandait beaucoup de précision. En tout cas, en amont, il fallait vraiment qu'on ait... Donc c'est aussi un travail qu'on a fait avec le chef-op. À partir du storyboard, on a vraiment tout repris. Et je vous disais, c'est vrai que le fait que ce soit très resserré, c'est aussi, on peut rapide, c'est le type de décor, de tournage, on peut vite se mettre un peu à patauger. En fait, on est toujours sur le même endroit, finalement, on pourrait juste se dire, bon, bah, finalement, on va poser, on va faire deux plans sur l'un et l'autre, et puis c'est fini, mais on sait qu'on veut aller plus loin. Pareil, il faut pas se perdre, il faut savoir exactement ce qu'on a à faire. Et voilà, comme souvent, hein, la préparation là-dessus, c'est absolument incontournable. Mais, par ailleurs, c'est aussi au montage, il y a plein de choses on avait la matière qu'on voulait, il y a peu de moments où on s'est dit qu'il nous manquait quelque chose, mais c'est aussi, voilà, quelque chose qui se trouve ensuite au montage. Parce que comme je vous disais, comme il y a au moins la première moitié du film quasiment qui est presque un dialogue, il faut pas se perdre, en même temps il faut que le rythme évolue, il faut quand même qu'il y ait des silences, enfin voilà, c'est vraiment encore une fois une recherche d'équilibre.
pour voir lui dans... L'idée, c'est d'aller en festival. Est-ce qu'il y a déjà d'autres programmations ou est-ce qu'il y a une plateforme qui proposera ou après tout simplement sur Internet?
Alors c'est une excellente question. C'est peut-être la plus importante finalement, c'est que le film soit vu. Donc là, bon, bah, il était vu aujourd'hui dans le cadre de Mauvais Tour. Alors nous, on vient de commencer avec la boîte de production là et la boîte de distribution Manifest. On vient de le film est produit par Insolence Productions et distribué par Manifest Pictures et on vient de commencer les festivals. Je dirais, ça fait un mois à peu près, un mois et demi. Donc là, on a un certain nombre de dates. Alors pour les gens qui nous écouteraient à temps, là, je peux dire que prochainement, alors je me souviens plus des dates exactes, mais au milieu du mois de novembre, le film sera à Brest. Au festival du film court de Brest et aussi à Aix-en-Provence au festival tout court qui sont donc des très très beaux festivals. Après j'espère qu'il y a d'autres dates là qui vont s'ajouter à celle-là puis à celle qu'on a fait avant et effectivement le film va assez prochainement être visible je dirais plus facilement en tout cas c'est toujours génial hein, si vous pouvez aller voir les films en festival c'est super parce que vous les voyez déjà avec toute une sélection autour puis en salle et avec un public mais le film sera bientôt disponible sur plateforme. En fait, c'est un film qui a été préacheté par OCS, donc Orange Cinéma Série. Là, je rentre un tout petit peu dans les détails. Il se trouve qu'en fait, OCS n'existe plus en tant que tel, c'est-à-dire en tant qu'entité autonome. Ils ont été rachetés par Canal. Et donc là, actuellement, ils sont en train de mettre en place ce que va devenir, si vous voulez, la nouvelle mouture de OCS dans le cadre de la plateforme Canal. Alors là, je veux pas dire de bêtises parce que je suis pas complètement sûr encore de là où ils en sont, mais concrètement, je pense que ça va être dans le bouquet Canal. Donc si vous avez, par exemple, je n'engage, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais si vous avez un abonnement Canal, vous pourrez bientôt voir le film sur la plateforme, voilà. Et puis sinon, hein, dans d'autres festivals, je l'espère.
Et pour suivre votre travail, pour vous, faut aller sur quel réseau social?
Alors ça c'est la question qui tue parce que pendant très longtemps là j'ai été complètement inactif sur les réseaux sociaux. J'ai décidé très précisément pour la sortie du court-métrage de m'y remettre, mais c'est pas encore complètement fait. Enfin ceci dit, vous pouvez me trouver sur Facebook, sur Instagram, et puis là je suis actuellement en train de commencer un peu à passer à la suite, à préparer l'après, donc peut-être que prochainement il y aura des nouvelles. Mais j'ai pas une présence en tout cas numérique très forte. Voilà.
Un mot sur l'ambiance du festival Mauvais Tour.
Bon, on en a discuté ensemble, donc apparemment vous étiez très contente de ce que vous avez vu ces derniers jours. Moi, je suis arrivé que aujourd'hui, donc pour le moment, je peux juste dire que la projo était super. Il y avait quand même pas mal de monde, donc ça c'est toujours très sympa de pouvoir venir à la fois présenter ses films, voir ceux des autres et aussi en présence des autres réalisateurs, ça c'est toujours super. Et puis quand même d'être au contact du public, donc je trouve que l'ambiance était super et puis ça a l'air d'être un beau festival. Après je n'en ai pas vu grand chose pour le moment, mais non, c'est une belle manifestation, ouais. Je pense que c'est vraiment bien que ça existe.
Je vous propose de changer de maison. Vous pouvez choisir la maison de la famille Maitland en référence à Beetlejuice, l'atelier du Père Noël, la maison de la sorcière du voyage de Chihiro, la maison de la famille Ingalls pour la petite maison dans la prairie ou le palais de Scheherazade. Vous prenez quelle habitation?
Ah, je dirais, parce que j'aime beaucoup le confort et pouvoir me mettre au coin du feu avec la neige dehors en lisant tranquillement, je pense que je vais prendre... Alors non pas... J'ai hésité là parce qu'il y a la maison Ingalls devant moi, mais je vais plutôt prendre l'atelier du Père Noël. Comme ça, je peux à la fois l'aider et puis me reposer un petit peu. Je suis sûr qu'il y a... Je vois bien un truc un peu confortable. Là, je pense qu'il doit y avoir une salle de repos pas mal. Donc dans l'ambiance finlandaise.
Merci beaucoup.
Merci à vous, merci à tous.